et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de mon podcast Amour, Café et Thérapie. 10e déjà, ça passe si vite, c'est complètement fou. Bon, en tout cas, je suis toujours contente de te retrouver comme tous les mercredis. Comment ça va par ici? Alors, l'épisode de la semaine dernière a énormément fait réagir. Je t'avoue que je m'en doutais un tout petit peu vu le thème, mais à ce point, pas du tout. Vraiment pas. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous toutes, voilà, par message, de pouvoir dialoguer, entendre vos visions, vos prises de conscience, etc. Donc, je suis toujours hyper contente quand on prend le temps d'échanger après un épisode. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser des petits commentaires pour que je vois un petit peu vos avis sur tout ça. Parce que le but, quand même, hein, c'est que ce soit un échange. Je sais que généralement, je me retrouve assez seule tous les mercredis en train de parler à mon micro. Mais ce qui me donne beaucoup de force, c'est d'imaginer que vous êtes derrière et que vous m'écoutez aussi et qu'on passe ce moment-là vraiment toutes ensemble. C'est vraiment l'objectif. Donc, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot une fois que vous aurez écouté cet épisode. Bref, je m'égare, reprenons. Je vous rappelle également que mon planning de consultation ouvre le 15 juin, donc demain. Je l'ouvre deux fois dans le mois, le 1er pour la période du 1er au 15 et le 15 pour la période du 15 au 30. Les clients que j'ai en suivi sont prioritaires sur les périodes qui sont inaccessibles. Et quand j'ouvre mon planning, il ne reste donc que les créneaux disponibles. Donc le planning se remplit vite en ce moment, aussi parce que je prends tout le mois d'août en congé. Et oui, moi aussi j'ai besoin de vacances, je ne travaille jamais le mois d'août. Donc il nous reste encore un mois et demi pour pouvoir travailler ensemble. Et bien évidemment, hein, si vous avez des questions, peu importe, sur les problématiques, sur la façon de faire, etc. Encore une fois, je le rappelle, consulter n'est pas quelque chose d'intuitif. Donc, si vous avez besoin d'un petit débrief un petit peu avant, de me poser quelques questions, je suis là pour ça. Ça fait partie de mon métier aussi. Donc, n'hésitez pas. OK? Je ferme toutes ces parenthèses et c'est parti. On se lance dans le sujet d'aujourd'hui qui concerne la jauge d'énergie. Très bien. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que je suis partie d'un cas un petit peu personnel. Je vous l'avoue. Il faut savoir que mon métier interroge beaucoup de personnes. Ce qui me surprend toujours, mais vraiment, j'ai très souvent des questions du type
« Ça te dérange pas de pas avoir de collègues? Comment tu fais pour travailler toute seule? Oh, alors moi vraiment, je pourrais pas. Hein. »
Oui, bah ça tombe bien Sylvie, hein, c'est pas toi qui fais ce métier, c'est moi. Hein.
Laura, t'aurais pas des meufs célibataires à me présenter?
Non Kevin, n'insiste pas, je ne te présenterai personne, surtout pas à toi. Ça c'est sûr. Mais on m'a aussi très souvent demandé une question que je trouve très pertinente et très intéressante.
Comment fais-tu pour ne pas te laisser submerger par tes clients et par ton métier?
J'aime beaucoup cette question. Et j'ai envie, dans cet épisode, de te partager un petit peu ma philosophie qui a vraiment changé ma vie pour moi et qui a eu vraiment des impacts très, très, très positifs dans mon quotidien. Alors, on est bien d'accord? Je ne prétends pas détenir la méthode ultime pour être heureux. C'est simplement ma manière à moi de gérer mon quotidien. Elle peut ne pas te convenir, c'est parfaitement OK. Je ne prétends pas être un exemple à suivre, hein, certainement pas. J'ai juste envie, encore une fois, de partager avec toi dans cet épisode ma philosophie de vie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, parfait, je peux te dévoiler mon petit secret. Tous les matins, je me prends pour un Sims. Et c'est pas une blague, hein? Quand je parle de jauge très régulièrement avec toi, donc tous les mercredis en podcast ou dans mes consultations, c'est pas juste parce que c'est une métaphore simple et sympa. Pas du tout. Enfin, si, c'est une métaphore mignonne. Mais c'est surtout parce que je l'utilise tout le temps pour moi-même. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je sais pas si tu y as joué, tu te souviens des Sims avec leur petite jauge hein, qui t'indiquait de quoi ils avaient besoin et surtout de ne pas les faire mourir sans les mettre au lit ou leur donner à manger. Eh bien, nous sommes pareils. J'imagine donc que je démarre ma journée avec une jauge d'énergie, comme la batterie de ton iPhone. Vraiment pareil. Théoriquement, quand tout s'est bien passé les jours précédents, ma jauge est remplie à ras-bord. Elle est verte, elle flotte au-dessus de ma tête, je me sens en pleine forme, détendue. Mon niveau de stress est gérable, tout va bien. Parfait. Et mon objectif est donc le suivant. Garder coûte que coûte cette jauge pleine jusqu'au soir. C'est mon obsession. Vraiment, littéralement, ma priorité absolue.
Ok, c'est intéressant, mais comment tu t'y prends? Parce que je veux bien garder ma jauge pleine, hein, mais quand Kevin me laisse en vue pendant 6 heures et que mon boss me met la pression, j'ai un peu de mal à garder ma jauge pleine, je t'avoue.
Ah, excellente question. C'est pourtant pas si dur comme concept, en théorie. Se lever avec une batterie pleine et revenir avec une batterie à peu près pleine le soir. Mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on a toujours cette impression d'être à plat? Pourquoi on se sent toujours dans le rouge, parfois même au bord du burn-out émotionnel? Pourquoi tout nous met à vif? Eh bien, je vais t'expliquer. Pour beaucoup d'entre nous, si tu regardes bien, nos ressources ne nous appartiennent plus.
Hein? Comment ça?
En gros, pour te donner une image, c'est comme si tu avais un compte en banque. Tout le monde a un compte en banque, mais que tu avais donné les numéros de ta carte de crédit en story Instagram. Tout le monde se sert et pioche dedans. Résultat, il te reste plus rien, plus un centime. T'as l'image en tête?
Pouah, ça change rien, moi je suis déjà à découvert, alors bon.
Kevin, concentre-toi s'il te plaît, c'est une image, hein, une métaphore, tu devrais avoir l'habitude, j'en fais toutes les semaines. Bon du coup, je disais, avant que Kevin nous interrompe, l'image du compte en banque, c'est exactement ce qui se passe avec ta jauge d'énergie. Tout le monde se sert, buffet à volonté. Hop hop hop, c'est la foire. Mais pour toi, au moment de faire les comptes, eh ben il te reste plus rien. Elle ne t'appartient plus, cette jauge. Et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? La première conséquence, et c'est l'un des symptômes de la jauge vide, c'est la colère. Imagine que des gens se servent littéralement sur ton compte bancaire sans te demander l'autorisation. Tu réagirais comment?
Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait.
Ben voilà, tu serais un peu, voire beaucoup en colère. Quand les gens se servent dans notre jauge, on est constamment sur les nerfs. Tout nous agace, tout nous blesse. On devient intolérant, impatient, intransigeant, stressé. Ou alors, pour ceux un peu moins à l'aise avec la colère, on est tout le temps triste, angoissé ou anxieux. C'est normal. Notre équilibre ne tient qu'à un fil et on sent que les choses nous échappent sans arriver à remettre du contrôle sur elles. La deuxième conséquence, en parlant de manque de contrôle, c'est un sentiment d'impuissance terrible. Si tout le monde se sert, on se sent dépossédé. Les choses ne nous appartiennent plus. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu un peu ce même sentiment d'impuissance quand j'ai reçu il y a une semaine mon appel de cotisation URSSAF. Pendant un bref moment, hein, vraiment, j'ai eu l'impression de bosser pour eux et que mon compte bancaire ne m'appartenait plus du tout.
Ça fait beaucoup là, non?
Bah écoutez, servez-vous, hein, ça me fait plaisir. Allez-y, hein, je vous en prie, open bar.
Hein. Là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après demain, j'aurai encore plus les boules.
Bref, je m'égare, je disais. Quand les gens se servent dans tes ressources, dans ta petite jauge d'énergie, tu te sens complètement dépossédé de toi-même. T'as l'impression que tu n'as plus aucun contrôle sur rien et tu te sens impuissant. Et ce sentiment d'impuissance, il nous amène inévitablement à l'attente. Si tu ne peux rien faire pour te remplir parce que justement tu es impuissant, tu vas attendre que les autres le fassent pour toi. Tu vas attendre que les autres remboursent, en fait, ce qu'ils ont pris. Typiquement, tu attends que les autres changent. Tu attends que ton ex arrête de t'ignorer et revienne en te faisant une grande déclaration d'amour enflammée. Tu attends que ton patron reconnaisse enfin la valeur de ton travail et te récompense avec une jolie prime. Tu attends que ton amie cesse de t'appeler que quand elle a besoin et accepte de t'écouter et d'être pleinement là pour toi dans des moments compliqués. Tu attends aussi que tes parents changent et t'acceptent enfin tel que tu es. Quant à moi, j'attends patiemment que l'URSSAF me rende mon argent. Bon, ça marche pas vraiment, pour le coup. Tu attends, tu attends, tu attends. Et plus tu attends, plus tu es frustrée, triste, en colère, impuissante. Et plus tu attends, plus ta jauge se vide. Et ce concept de l'impuissance, qui débouche sur une attente frustrante et angoissante, elle nous amène à un point important que je veux vraiment aborder avec toi. Ouvre grand tes oreilles. Nous avons, à mon sens, deux ennemis à combattre au quotidien. Deux biais, deux tendances qui, certes, à court terme, nous rassurent et nous font du bien, mais qui, à long terme, nous détruisent et sapent complètement nos aptitudes et nos capacités à créer le bon, le beau pour soi et autour de soi. Ces deux ennemis sont l'immobilisme et la victimisation. Quand notre jauge est vide et qu'on n'exerce plus vraiment de contrôle sur elle, on se place dans l'attente, immobile donc, notre premier ennemi, attendant désespérément que les autres daignent bien nous remplir de nouveau. Ce qui alimente une posture de victime, notre deuxième ennemi.
Mon boss est un méchant, mon ex est un tocard, ma copine est une égoïste, mes parents sont décevants.
Les autres sont des ennemis constamment. Mais des ennemis envers qui ? On persiste à attendre des choses d'eux. Tu saisis un peu le contre-ordre ? Théoriquement, notre bourreau, notre ennemi, bon, on n'a qu'une envie, c'est de le fuir et de partir très 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 loin de lui. Mais là, non. Tu es mon bourreau, mais je continue d'attendre quelque chose de toi pour me délivrer du mal que tu me fais. C'est ainsi qu'on se crée des chaînes invisibles. Des chaînes qui nous relient à cette personne que l'on a dressée en bourreau pour mieux nous déresponsabiliser.
C'est à l'autre de réparer le mal qu'il me fait. Moi, j'attends.
Et quelle idée brillante avons-nous trouvée pour pallier à cette attente ? Le compromis, bien sûr.
Hein ? Mais c'est pas bien le compromis, Laura ?
Non. Alors vraiment, non. Je t'avoue, c'est vrai que j'ai un avis assez tranché sur la question et je dois t'avouer que plus je fais ce métier, plus j'observe des couples et plus je suis convaincue par le sujet. Et tu sais quoi ? Il n'y a qu'à regarder le visage d'une personne te dire
« Ouais, dans un couple, il faut faire des compromis pour que ça fonctionne, sinon ça marche pas. Hein. »
Ah, bah ça donne vachement envie d'être en couple, dis donc. On dirait qu'on se dirige tous à l'abattoir et que le couple n'est que succession de privations individuelles pour espérer que ça fonctionne. Alors je vais te dire une chose. Si le couple est déjà difficile en soi pour plein de raisons, je peux te dire et t'affirmer même que tu ne te facilites absolument pas la tâche en brandissant l'argument du compromis à chaque problème. Crois-moi, le compromis, c'est la pire fausse bonne idée qui existe. La pire invention. Prenons un exemple. Imagine que Titouan t'invite à passer la soirée avec tous ses potes du rugby. Des gens brillants et parfaitement sobres. Ce message est ironique, c'est complètement faux. Alors, Titouan, il est adorable, hein, mais ses amis, c'est pas tout à fait ton truc. Disons-le, à moins que tu connaisses par cœur les paroles du lac du Connemara et que tu aies une passion certaine pour récupérer ton mec bourré qui s'est jeté dans un buisson, et ça te regarde, je ne te juge pas, et d'ailleurs personne te juge. Alors avant que la fédération du rugby me tombe dessus, hein, c'est un exemple, je n'ai rien contre les gens qui aiment le rugby, qu'ils pratiquent, peu importe. Ne me tombez pas dessus s'il vous plaît. Hein. Bon ok, admettons que tu fasses un compromis.
Oh, ça fait plaisir à Titouan que je vienne. Je vais prendre sur moi, c'est pas grave, c'est juste une soirée.
Il se passe quoi du coup ? Examinons ensemble les conséquences de ce compromis. Premièrement, ta jauge d'énergie baisse. Bah oui, tu fais quelque chose qui te déplaît, tu y investis des ressources, du temps, de l'énergie pour quelque chose qui te fait pas hyper hyper plaisir. Ce qui est un peu contre-productif dans la logique de garder une jauge d'énergie dans le vert. Mais si encore c'était que ça ? Deuxièmement, tu vas attendre une contrepartie. Et ça, c'est un point qui nous intéresse beaucoup. Coucou l'épisode 9 sur le fait de trop donner. Non mais je vais vraiment vous pondre un jour un épisode en chuchotant parce que c'est vraiment trop bien de chuchoter. Si tu n'as pas écouté l'épisode 9, je t'invite à le faire. Bon, juste après celui-ci, hein, tu restes encore un peu avec moi. Dans cet épisode, j'aborde avec toi l'idée que le don altruiste est une supercherie, un fantasme et que nous attendons tous plus ou moins consciemment une contrepartie de ce que nous donnons et que justement le nier est dangereux à la fois pour soi et pour nos liens. Donc, quand tu t'engages dans ce process qu'est le compromis, tu te forces à faire quelque chose, ici en l'occurrence de passer la soirée à boire des bières et hurler sur Titouan bourré qui monte son cul pour faire des blagues aux copains.
Boulet, B-O-U-L-E-T.
Alors, premièrement, plus ou moins consciemment, tu vas t'attendre à ce qu'il te donne en retour le même niveau de sacrifice dans une autre situation. Et de toi à moi, la contrepartie d'une soirée pareille, je sais pas trop ce que c'est. Et deuxièmement, quelque chose qu'on oublie toujours, c'est que nous n'avons pas la même grille de points. Et oui, elle est là la galère du compromis. Peut-être que pour toi, une soirée avec le Rugby Club, ça te coûte 300 points. Mais peut-être que pour lui, un dîner avec ta mère, c'est 500 points. Donc explique-moi comment on fait pour se rembourser mutuellement nos dettes si nous avons des échelles de notation de sacrifice complètement différentes. Il est difficile, voire impossible, d'égaliser parfaitement le score. Il faut en finir avec cette idée de devoir se forcer à faire des choses pour l'autre pour faire vivre une relation. On le fait rarement en amitié, quand il pense. Et pourtant, nos relations durent bien plus longtemps que nos relations de couple. Il y a peut-être un indice à capter là-dedans. Et si le compromis était la solution ultime, très clairement, il n'y aurait plus de divorce depuis bien longtemps. Donc, se sacrifier au nom du compromis n'est jamais une bonne solution. Parce qu'il alimente l'attente implicite, la rancœur, la frustration, et il alimente la posture de victime.
Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, t'es vraiment qu'un ingrat, un égoïste.
Mais encore une fois, qui t'a demandé de te sacrifier à ce point ?
Oui, mais c'est lui qui m'a dit de venir avec lui à la soirée, je voulais juste lui faire plaisir, moi.
Explique-moi à quel moment ça fait plaisir à quelqu'un de voir une personne faire quelque chose qu'elle ne prend aucun plaisir à faire. Quand tu vas faire les boutiques et que Titouan traîne des pieds, saoulé et râle parce qu'il fait trop chaud, trop froid, parce qu'il a soif, parce qu'il veut faire pipi et très clairement parce qu'il en a marre, est-ce que tu passes un bon moment ? Est-ce que vous avez la sensation vraiment d'avoir partagé des instants agréables pour votre relation ? Ben non, se forcer c'est pas agréable et voir l'autre se forcer, ben c'est pas agréable non plus. Donc donner à l'autre en priant pour qu'il fasse remonter notre jauge, c'est cultiver un sentiment d'impuissance, une posture de victime, une déresponsabilisation vis-à-vis de soi, un sentiment de frustration, d'attente, de colère et d'anxiété, et donc en conclusion, une batterie à plat. Et si notre batterie est à plat, on manque de confiance en nous, on n'a plus envie de rien, on est démotivé, épuisé, on ne réalise pas ses objectifs ni ses rêves, concrètement, on subit notre vie.
Oui, mais comment on fait du coup pour garder notre jauge pleine alors ?
Très bonne question. Comment on fait ? Comment on fait pour protéger sa petite batterie interne et ne plus s'épuiser et s'abîmer ? Comment on protège nos ressources sans se sentir vampirisé par les autres dans l'attente qu'ils daignent bien nous rendre tout ce qu'ils ont pris ? L'objectif principal, c'est que tu puisses retrouver un sentiment de pouvoir sur ta jauge. C'est ta batterie, pas celle de Titouan, ni celle de ton boss, de tes parents ou de tes amis. Tu as cette responsabilité, et ce pour toute ta vie, de te protéger et de protéger ton énergie. Toi seul décides pour qui tu vas la dépenser, au moment où tu as envie de la dépenser, sans avoir à te justifier. Je répète, sans avoir à te justifier. Ton énergie ne se justifie jamais. C'est aux autres de respecter tes propres limites. Pour en finir avec la victimisation, tu dois cesser de tenir les autres responsables de ton état émotionnel. Je répète, tu dois cesser de tenir les autres responsables de ton état émotionnel. Les autres n'y sont pour rien, que tu le veuilles ou non. Ils sont juste comme ils sont. C'est toi qui choisis ce que tu acceptes et ce que tu permets. C'est toi qui tiens les rênes, personne d'autre. Et très loin d'être culpabilisant, c'est une excellente nouvelle, tu trouves pas ? Ça signifie que tu as le pouvoir et le devoir de changer les choses. Ça signifie que tu n'es pas dépendante de qui que ce soit, que tu n'es pas coincée et que tu peux agir. Bah, c'est plutôt cool, non ? Je vais te présenter 5 petits exercices pour t'aider. Alors, attrape ton carnet et ton stylo et hop, au travail. Exercice numéro 1, dessine ta jauge d'énergie sur les 7 prochains jours. Bon, tu peux le faire bien au-delà de 7 jours, mais on va déjà se fixer 7 jours pour commencer. Sur une semaine entière, dessine chaque jour ta jauge d'énergie. Est-ce qu'elle est dans le vert ou plutôt dans le rouge ? Pleine à 100%, 70%, 50% ou 20%? Évalue son niveau le matin et le soir avant de te coucher. Ok ? Deuxième exercice, dresse la liste de tes voleurs d'énergie ou des situations voleuses d'énergie. C'est hyper important. Si tu te réveilles le matin en forme et que le soir, tu te sens vidé et à plat, c'est intéressant de savoir ce qui t'a mis dans le rouge. Parfois, les voleurs d'énergie sont un peu durs à identifier. Alors, si t'arrives à cerner facilement que Chantal de la Conta qui te tient la jambe à la machine à café pour te raconter tous ses problèmes dans les moindres détails te fatigue et te vide alors même qu'il est que 9h du matin, pour d'autres voleurs, les choses sont un peu moins évidentes. Il y a par exemple cette amie que tu aimes beaucoup, que tu connais depuis des années, tu l'adores, hein, vous avez vécu plein de choses ensemble, mais quand t'y penses, à chaque fois que tu la vois, bah, tu reviens déprimé. Et frustrée. Elle est adorable, hein, mais elle parle beaucoup d'elle et tu te sens pas vraiment écoutée. Il y a aussi ce boss. À chaque fois qu'il entre dans la pièce, tu retiens ta respiration et ton cœur se met à battre très très fort. Alors, pas du tout parce que Jean-Michel te fait de l'effet avec sa petite chemise à manches courtes, mais plutôt parce qu'il te terrorise et te met très mal à l'aise. Il y a aussi ces repas de famille. Tu adores tes parents, hein, mais les voir stressés tous les dimanches midi pour préparer le repas avec papy-mamie, les oncles et les tantes et les cousins-cousines, Et subir leur stress, leur mauvaise humeur et leur agacement, ça te plombe ton week-end. Et tu repars le soir, certes avec un tube de patates et un bout de gâteau, mais complètement vidé et épuisé alors que tu reprends ta semaine le lendemain. Écoute-moi bien. Peu importe la situation, peu importe le contexte, peu importe le lien, peu importe la personne, ne banalise jamais, je dis bien jamais, le mal-être, la frustration ou l'anxiété. Non, ce n'est pas normal d'être angoissé au boulot. Non, ce n'est pas normal de se sentir mal avec une amie. C'est pas normal non plus de se sentir mal avec un parent ou un partenaire de vie. Ce n'est pas normal. Le mal-être ne doit jamais être banalisé et aucune relation, même parentale, parce qu'on a souvent tendance à sacraliser les relations parentales, aucune relation ne doit le permettre ou le justifier. C'est ton devoir et ta responsabilité de maintenir tes ressources et ta jauge d'énergie, et cela passe par le fait d'identifier les personnes et les situations qui t'en pompent, celles et ceux qui vampirisent ta joie de vivre, ta bonne humeur, ta patience, ton envie, ta motivation. Donc, premier exercice, identifier les facteurs qui drainent, qui vident ta jauge. Bon, on continue avec le troisième exercice. Exercice numéro 3, faire preuve d'égoïsme.
Ah bah tu vois, elle me traite tout le temps d'égoïste. Au final, j'avais raison. Merci Laura.
Oui, alors on va nuancer un petit peu Kevin, t'emballe pas. Hein. Robert, mon très cher Robert, peux-tu nous donner la définition de l'égoïsme, s'il te plaît ? Égoïsme, nom masculin, attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. On va se poser ensemble 2 minutes parce qu'il faut qu'on en parle. Combien se sont révoltés en entendant le mot « égoïste » ? C'est presque une réaction physiologique. On entend « égoïste » et oh, hop, on se braque. Parce que pour nous, cette notion, elle incarne le mal, la menace du groupe. Mais il y a le bon et le mauvais égoïsme. Le mauvais égoïsme, ce n'est pas le fait de penser à nous. C'est le fait de vouloir que l'autre pense à nous sans lui laisser le droit de penser à lui. Est-ce que tu vois un peu la différence ? L'égoïsme nocif, c'est se dire « J'ai un intérêt ou une envie particulière et je veux que toute la terre entière y réponde favorablement, ma mère, mon mec, ma boulangère et même mon chien. Je veux que les planètes s'alignent et que tout se déroule en fonction de moi. L'autre doit me faire plaisir, sinon ça veut dire qu'il ne m'aime pas. » Voilà, ça c'est l'égoïsme malsain. Il ne tolère aucune frustration et considère les autres comme des outils au service de ses envies. À l'inverse, le bon égoïsme, l'individualisme sain, c'est le fait de penser à soi tout en étant pleinement responsable.
Encore la responsabilité ?
Eh oui, je t'avais prévenu, tu vas en manger tous les mercredis. Et à force, ça va même devenir ton mot préféré, tu vas voir. Si on reprend la définition de Mr. Robert, quel mal y a-t-il à être attaché à soi et à rechercher son plaisir et ses intérêts personnels ? C'est ce que nous sommes tous censés faire tout au long de notre vie. Au lieu de s'obliger à se comporter en martyr, à faire des tonnes de compromis, à donner, se priver, se sacrifier pour espérer vainement récupérer quelques miettes en retour, à quel moment cette façon de faire est censée illustrer l'amour de soi et l'amour de l'autre ? Il faut en finir avec cette culture de la souffrance et du sacrifice au nom de l'amour. Te sacrifier pour l'autre ne te rend pas plus aimante, voir l'autre se sacrifier pour toi ne le rend pas plus aimant non plus. Les sacrifices à long terme détruisent la relation. Ça, par contre, c'est un fait avéré. Les relations tournent mal quand nous donnons cette responsabilité à l'autre de nous rendre heureux, quitte à ce qu'il se prive pour y parvenir. C'est ça, l'égoïsme toxique. L'égoïsme sain, du coup, si je poursuis, c'est tout simplement l'idée de se dire « Je suis seule dans mon bateau, moi seule sais ce qui est bon pour moi et je suis responsable dans le fait de m'apporter ce qui me fait du bien » et de fuir ce qui me nuit et me vide. Personne ne peut le faire à ta place. Tu as le droit et le devoir de dire non si tu estimes que cela te nuit ou te met dans une position inconfortable. Tu as le droit de penser à toi, tu as le droit de refuser quelque chose et de prendre le risque de déplaire. L'amour n'est pas proportionnel à ce que tu fais pour les autres. Il est lié à la personne que tu es. Faire n'est pas être. Mais il est justement difficile de savoir qui on est quand on s'oublie systématiquement pour tout le monde. Et dans un même temps, tu dois accepter que l'autre ne sera pas toujours en capacité de te faire plaisir. Parfois, il te dira non également ou refusera certaines de tes demandes. Non pas parce qu'il ne t'aime pas suffisamment ou parce qu'il cherche à te nuire, mais parce que certaines de tes envies viendront toucher ses propres limites à lui et que se sacrifier ne mènera à rien de bon. Respecter ses propres limites, c'est également respecter celles de l'autre. Et plus on respecte ses limites, plus on s'aime soi et plus on aime l'autre. L'amour naît toujours du respect. Et tu vois que l'amour est difficile, non pas parce qu'il demande de se sacrifier encore et toujours et de faire ses fameux compromis, pas du tout, mais parce qu'il demande de faire face et d'accepter un être singulier, différent de nous, qui a des envies différentes, des émotions différentes, des conceptions différentes. Alors non, tu n'es pas obligé d'accompagner Titouan à la soirée du rugby si cela ne te fait pas plaisir. Et non, Titouan n'est pas obligé de t'accompagner chez Zara pour faire du shopping s'il n'en a pas envie non plus. En revanche, si toi cette activité te fait du bien et si tu as très envie d'une nouvelle robe d'été, alors fonce ! Mets de la musique dans tes oreilles, appelle une copine et flâne dans les rayons ! Et en parlant de faire des choses qui te font du bien, quatrième exercice, choisis des activités rentables.
Des activités rentables ? C'est-à-dire ?
Par rentable, je sous-entends, qui implique une dépense d'énergie certes, mais que tu récupères en la pratiquant. Le sport est un super exemple. Certes, tu es fatigué, tu as plutôt envie de lézarder sur le canapé devant la reine Charlotte. Bouger tes fesses à la salle de sport te demande beaucoup d'énergie. Te changer, préparer ton sac, prendre la voiture, etc. Mais une fois en tenue et toute transpirante, tu te sens mille fois mieux, plus forte, plus puissante, fière de toi et rechargée. Voilà une activité rentable. Bien souvent, quand on est à plat, on n'a envie de rien. Coucou l'immobilisme dont on a parlé tout à l'heure. Seulement, comme on l'a dit, sans bouger, j'attends. Ma jauge ne se remplit toujours pas et je reste vide. Tu dois trouver des activités, des personnes, des situations qui te rechargent, qui te reboostent, qui maintiennent ta jauge à un niveau élevé. Ça peut être organiser des vacances au soleil, du sport, des activités créatives, danser en culotte devant ton miroir, un moment entre amis, cuisiner. Peu importe, à toi d'identifier celle qui te recharge et planifie-les à l'avance dans ton planning le plus possible, vraiment à volonté. Et enfin, cinquième et dernier exercice, l'arbitrage. Pour t'aider et te guider au quotidien, voici une série de trois questions à te poser avant de faire quelque chose. La première question, est-ce que tu en retires un bénéfice? La deuxième, est-ce que cela te fait du bien? La troisième, est-ce que tu y es obligé? Si oui, peux-tu malgré tout y prendre du plaisir? Ne t'impose aucune contrainte, aucune contrariété, aucune frustration inutile. Personnellement, j'utilise au quotidien ces trois questions et c'est même devenu un automatisme. On va prendre un exemple. Titouan, de nouveau lui, te propose donc cette fameuse soirée potes du rugby, chipolata et bière chaude dans des gobelets en plastique. Première question, est-ce que tu en retires un bénéfice? À moins que la bière chaude ait une vertu thérapeutique, on va dire non. Est-ce que cela te fait du bien? Entendre chanter le lac du Connemara par 15 mecs complètement bourrés? Pas vraiment. Est-ce que tu y es obligé? Absolument pas. Score de non, 3 sur 3, tu n'y vas pas. Problème réglé. Et contrairement au compromis, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va créer une énorme dette à ce pauvre Titouan qui serait obligé, malgré sa gueule de bois du lendemain, de t'accompagner, faire du shopping, voir ta mère pour prendre le café et te faire un massage pour compenser cette soirée. Là, tu le laisses profiter de sa soirée avec ses amis pendant que tu seras occupé à une autre activité qui te fera du bien, voir d'autres amis, regarder une série, lire un bon livre. Ta jauge d'énergie restera pleine puisque tu ne t'es pas sacrifié et tu seras heureuse de le retrouver à son retour de soirée. Bon, peut-être pas direct à son retour, hein, il vaudra peut-être mieux lui laisser le canapé déplié avec une bassine à côté, on n'est jamais trop prudent. Mais le lendemain, après une bonne douche et un brossage de dents, tu seras très heureuse de le serrer contre toi. Autre exemple, tu dois faire tes papiers. Est-ce que tu en retires un bénéfice? Oui, une fois fait, tu auras l'esprit libre et le tas de paperasse aura disparu de ton bureau, ce qui ne t'angoissera plus. Est-ce que cela te fait du bien? Alors, à part si tu éprouves une passion avérée pour les feuilles de soins, le tri de papier et les courriers pour la mutuelle, il y a de fortes chances pour que non, ce ne soit pas l'activité du siècle. Est-ce que tu y es obligé? Oui. Et je préfère te prévenir, la phobie administrative n'est pas encore reconnue comme une maladie officielle, à mon plus grand désespoir, donc pas le choix. Score de non, 1 sur 3, tu vas chercher ton classeur et tu t'y mets. Tu vois, c'est super facile! Je le répète, en tant que petit Sims, c'est ton devoir de maintenir ta batterie pleine. Personne ne pourra le faire pour toi. Une jauge pleine est indispensable pour réaliser tes objectifs, pour prendre confiance en toi, pour vibrer, rêver, te dépasser, oser, pour te donner tout plein d'amour, rayonner et du coup en donner tout plein aux autres. La jauge pleine, c'est ton critère, ton repère. Si tu sens qu'elle se vide, hop, tu reprends nos petits exercices et tu vas voir, elle va très rapidement remonter. Souviens-toi, tu es la seule gardienne de tes ressources. À toi d'en prendre soin. Et ça y est, ce 10e épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Je sais combien il peut être compliqué de mettre de l'ordre dans sa vie et dans son quotidien. Je sais aussi que consulter n'est pas évident, très clairement, hein, et que ça représente pour beaucoup de personnes un sacré budget. Du coup, je suis en train de préparer, je voulais t'en parler un tout petit peu avant de te laisser, mon premier support, ce que j'appelle la thérapie en autonomie, c'est-à-dire un outil, un guide, où je vais te délivrer un maximum de clés pour que tu puisses travailler en solo et en toute autonomie. Vraiment, le but, c'est que ce soit mais le plus pratique possible. Et ce premier guide que je suis en train de te préparer, il porte justement sur le thème de remettre de l'ordre dans ta vie. À travers ce guide, et l'idée c'est que ce soit aussi notamment un guide annuel, donc vraiment quelque chose que tu vas garder et que tu pourras même répéter tout au long de ta vie, c'est que tu puisses donc à travers lui faire un bilan de tous, et je dis bien tous, les domaines de ta vie pour que tu puisses les réévaluer, les analyser, travailler dessus, identifier les blocages, mettre en place des solutions pour justement retrouver ta sérénité, ta paix et te sentir enfin apaisé. Donc t'imagines, tous ces domaines-là, ça prend du temps, c'est pour ça que je bosse dessus et que j'y consacre une énorme partie de mon temps. Je pense que c'est un outil qui est vraiment indispensable, j'ai vraiment hâte, mais qu'une hâte de pouvoir vous le présenter. Ce programme sortira fin juin, je veux absolument que vous l'ayez entre vos mains pour l'été, parce que l'été c'est toujours une période où on fait un petit peu une pause dans notre vie, on se repose un peu plus. C'est l'occasion aussi, généralement, de faire une introspection. L'air de la mer et le repos et les grasses matinées aident beaucoup à être dans de super conditions pour faire ce bilan-là. Donc, je me dépêche pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Et j'espère de tout mon cœur que ça vous plaira et que surtout, ça vous aidera. En tout cas, on se retrouve comme toujours sur Instagram pour papoter avec grand plaisir, Mademoiselle Laura Baldini. Je te mets les liens de réservation de consultation dans le résumé du podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et à mercredi prochain !